Bonjour à tous, nous sommes la classe 1OL du lycée André Argouge à Grenoble et nous allons faire une émission sur la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé en Isère. Et nous sommes partis au musée de la Résistance pour voir un peu ce qui s'est passé en Isère. Je vais laisser la place à Samy et Swali qui vont vous expliquer le quotidien des jeunes pendant la guerre en Isère.
En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui donne lieu à une déclaration de guerre avec la France. Aujourd'hui, nous allons suivre Fernand, un jeune homme de 16 ans à Grenoble. Nous allons suivre son évolution dans la guerre. Les informations sur la guerre se faisaient par radio ou par affiche dans la ville. En 1940, la France perd son territoire et passe sous le contrôle du maréchal Pétain, qui imposa le régime de Vichy.
En 1941, la France a commencé à collaborer avec l'Allemagne, avec le maréchal Pétain qui conclut un accord avec Adolf Hitler. C'est même cette année que Fernand a vu pour la première fois le maréchal Pétain en personne à Grenoble, qui était venu faire un discours. C'est en 1942 que la France est occupée par l'Allemagne. Cependant, les Français forment la résistance. C'est ainsi qu'un jeune homme, donc Fernand, qui fut impressionné par leur courage, décida malgré son jeune âge de jouer de ses contacts pour créer des faux papiers pour entrer dans la résistance. Après son entrée dans la résistance, il se cacha dans les maquis du Vercors. Fernand, les soldats américains et la résistance sont retournés à Grenoble en 1943 et ils ont fait fuir les Allemands grâce au nombre de leurs troupes et ont reconquéri Grenoble. Et donc Grenoble est numéré en 1943. Fernand, qui, après l'annonce de la libération de Grenoble, fut enjoué de courir de partout dans les rues de Grenoble pour l'annoncer à ses amis, à ses voisins, à ses proches.
Ensuite, nous allons vous présenter les impressions de mes camarades qui ont été prises au musée de la Résistance.
Oui, cette sortie elle était très bien, très cultivante, très enrichissante. Moi, c'est découvrir comment s'est passée la guerre en Isère, de voir les détails, de connaître un peu l'histoire, de comment ça a évolué.
J'ai bien aimé la maquette illuminée qui représentait les maquis où ils se cachaient pendant la guerre. Et j'ai bien aimé les témoignages qu'il y avait dans les tableaux et qui représentaient les gens qui ont vécu ce qui se passait avant.
C'est les témoignages qui restent et tout. Les restes, les objets, les cartes d'identité et tout.
Maintenant, je vous présente Ben, Adem, Nour, qui vont vous parler des maquis et des maquisards.
Qui étaient les maquis et les maquisards?
Les maquis étaient des groupes de résistants cachés dans des régions isolées, dans des montagnes, des forêts, pour échapper aux Allemands et organiser les luttes contre l'occupation. Les maquisards étaient des hommes et des femmes qui faisaient partie de ces groupes. Ils menaient des actions de sabotage, des attaques surprises et étaient alliés pour libérer la France.
Qui étaient les maquis du Vercors?
Les maquis du Vercors étaient un groupe de résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale, cachés dans le massif du Vercors, gouvernement de Vichy. En juin 1944, après le débarquement des Alliés, ils déclarèrent la région libre et se préparèrent à combattre l'ennemi. Mais en juillet, les Allemands lancèrent une grande attaque avec les soldats parachutés et des chars. Les maquisards, moins nombreux et mal équipés, furent rapidement battus. Les nazis se vengèrent en massacrant de nombreux résistants et habitants. Cet événement est devenu un symbole du courage, de sacrifice, de la résistance.
Pouvez-vous nous expliquer leur rôle ?
Les maquis ont beaucoup aidé à la libération de la France en combattant les Allemands. Ils faisaient du sabotage en détruisant des routes, des départs et des lignes en trois pour empêcher les soldats ennemis de circuler. Ils montent aussi des attaques surprises, ce qui oblige les Allemands à défendre et les affaiblir.
Qui était Eugène Chavant?
Eugène Chavant était un militant socialiste résistant français. C'est un chef de la résistance dans le Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a aidé à organiser le maquis pour lutter contre les Allemands. Après l'attaque de juillet 1944, il a réussi à s'échapper et continuer à se battre pour la liberté. Il est devenu un symbole de la résistance. Il est mort en 1969 à Grenoble.
Donc maintenant, on va vous présenter la chanson des Partisans chantée par Germaine Tillion en 1963. Donc le chant des Partisans était l'hymne de la résistance.
Du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, très vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au crédit y font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Donc maintenant, Razvan, notre camarade, va vous présenter et vous expliquer qu'est-ce que la STO.
Okay. Le STO, service du travail obligatoire, instaure la loi que tous les travailleurs français ont l'obligation de partir travailler en Allemagne. Et ceux qui s'opposent à cela vont rejoindre les maquis. Et le 8 septembre 1943, le général de l'Italie, le général Badoglio signe un armistice avec les Alliés. L'Italie devient dès lors ennemie de l'Allemagne. Le service du travail obligatoire STO fut, durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie et la réquisition et le transfert vers l'Allemagne de certaines de milliers de travailleurs français contre leur gré afin de participer à l'effort de guerre allemand que les revers militaires contraignés à être sans cesse grandissent, usines, agriculture, chemins de fer, etc. La majorité des travailleurs vont refuser d'aller travailler en Allemagne, donc suite à cela, vont rejoindre les maquis. Suite à cette situation, il y a eu plusieurs affiches de propagande qui ont existé durant cette période. Il existe une affiche qui existait dans cette période, dont le slogan est « En travaillant en Allemagne, tu seras l'ambassadeur de la qualité française ».
Très bien, merci beaucoup Razvan. Maintenant, je vais vous présenter Héloïse et Angèle. Sur quoi avez-vous travaillé ?
Nous avons travaillé sur les portes de la Gestapo avec Héloïse.
Avec Angèle, nous avons travaillé sur les portes de la Gestapo. Elles ont été sur Courbéria en 1943. Ce n'étaient pas des portes ordinaires, car ce sont elles qui sont le symbole de la brutalité des nazis. Elles enfermaient des déportés, des résistants et des communistes de la Seconde Guerre mondiale.
Les portes sont installées dans le musée, l'une à côté de l'autre, derrière des vitres. Les vitres servent à redessiner les gravures qui ont été faites sur ces deux portes. Les auteurs des gravures sont réalisés par principalement des prisonniers derrière ces portes.
La situation de l'Isère à l'époque était bien différente de celle d'aujourd'hui. En effet, elles étaient sous l'occupation de l'Allemagne.
Aujourd'hui, au Courbéria, on peut trouver un supermarché, une galerie commerciale. On plonge dans notre histoire pour redécouvrir des fameuses portes. Ces fameuses portes.
Héloïse, c'est quoi ça ?
Ben ça, Angèle, c'est les portes de la Gestapo.
Ah ouais ? Ce qu'il y a écrit, il y a des calendriers, plein de dates. Tu penses que ça représente quoi ?
Je pense que ça représente les jours que les prisonniers ont dû compter.
Ah ouais ? Regarde, il y a même plein de noms. Ça fait bizarre, non ?
Ouais, ça c'est clair. Il y a même des portraits des personnes qui leur ont manqué.
Ouais. Ou peut-être que c'est eux, non ?
Je pense. Regarde cet homme-là.
Ouais.
Je pense que ça devait être un prisonnier.
Regarde le nom à côté. Peut-être que c'est le sien. Ou au-dessus.
Mm-hmm.
Ou alors, peut-être que c'est pas lui, mais quelqu'un de proche.
Qui lui manque, peut-être.
Exactement. Mais regarde-moi ça, toutes ces dates, tous ces messages, tous ces mots qu'on n'arrive pas à lire. Tu penses que c'est dans une autre langue ?
Alors, je pense qu'il doit y avoir des déportés étrangers, quand même.
Ouais.
Mais regarde, il y a même des symboles.
Un H ? Tu penses que ça veut dire quoi ?
J'en ai aucune idée.
C'est plein de messages incompréhensibles, mais que peut-être eux, ils ont compris, non ?
Je pense, ouais. Je pense que c'était vraiment propre à chaque prisonnier.
Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et regarde, plein de portraits. Regarde, il y a même une tête de mort.
Ouais.
C'est quand même fort comme dessin.
Ah oui, surtout que, tu vois, il y a des mots comme par exemple « douleur » ou « j'ai confiance en mon Dieu Tout-Puissant ». C'est quand même des messages super forts.
C'est super fort et on ressent la douleur à travers.
Ouais.
C'est ça qui est horrible.
Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression de m'y voir.
Ah ouais ?
J'ai l'impression tellement que c'est fort de m'y retrouver.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même hyper fort comme émotion. C'est vrai que c'est quand même bizarre au fond.
Oh, regarde, y a même
qu'est-ce
un
que
bateau.
C'est ça ? Ah ouais ?
Bah ouais. C'est un bateau avec un marin en dessous.
Et tu penses que le nom qui écrit dessous, c'est le sien ? Tu penses que c'était lui qui était marin ?
Ouais, Rigan Gaston, le 8-2-43. C'était 2 ans avant l'arrêt de la guerre.
Ouais. Peut-être que c'est le jour où il est mort.
Ou le jour où il est arrivé.
C'est vrai. Oh, mon Dieu, ça fait vraiment de la peine.
Le 17-2-44, jeudi. Ouais. Tu vois, c'était tout un calendrier.
Hey, dis Angèle.
Oui, dis-moi.
Heureusement que la guerre, elle est terminée aujourd'hui, non ?
Bah ouais, parce que c'est troublant tout ça quand même.
Bah ouais, surtout que moi, je sais pas comment j'aurais fait hein, pour tenir jusqu'ici. Hein.
Bah moi non plus, franchement, c'est catastrophique de voir tout ça, même de le ressentir à l'heure actuelle, c'est quand même assez bizarre. T'es d'accord avec moi, non ?
Ah bah oui, même nous, ça nous marque les esprits, alors que nous, on l'a pas vécu.
T'imagines ? Franchement, je sais pas comment ils ont fait, et c'est hyper marquant.
Oui, et surtout qu'ils ont gagné la guerre.
Oui, ça c'est vrai. Et c'est une belle preuve de courage.
Ah oui, on devrait en prendre exemple.
Donc maintenant, je vais vous présenter la suite. Donc Sarah, Samuel et Lina vont vous présenter le sujet de Vichy, la résistance et restauration république.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Isère fut un haut lieu de résistance contre le régime de Vichy et l'occupation nazie. De nombreux réseaux résistants s'y organisent, menant des actions de sabotage et de lutte armée.
Après la libération, le département joua un rôle dans la restauration de la République avec le retour des institutions démocratiques et la reconnaissance des combattants de l'ombre tels que Marguerite Gonnet.
Alors déjà, Marguerite Gonnet, Elle se fait appeler la cousine, car elle a commencé à diffuser des messages. Et elle est devenue une des responsables premières du département. Elle est arrêtée en mars 1942 à la suite d'une dénonciation. Elle comparaît à Lyon devant un tribunal militaire après avoir été détenue au fort Montluc. Après sa libération, elle rejoint le maquis du Grésivaudan et continue ses activités de faux-papiers suite au STO. Certains de ses enfants entrent dans la résistance, notamment dans la compagnie Bernard. Dénoncée une seconde, elle échappe à une arrestation en juin 1944. Marguerite Gonnet vit ensuite les deux derniers mois de l'occupation dans le maquis de Loisan avant d'être arrêtée une troisième fois. Elle sera la seule femme jurée à siéger à la Cour de justice ainsi qu'au comité départemental de libération nationale. Elle prend aussi la direction du préventorium de Villard-de-Lans. En 1985, elle sera médaillée de la résistance. Elle obtiendra la Légion d'honneur par les mains de Raymond Aubrac.
Merci à vous trois. Maintenant, avant de poursuivre, nous avons Reda qui a quelque chose à dire.
Donc maintenant, je vais vous présenter le Morse et son importance dans la Seconde Guerre mondiale. Donc avant le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, la résistance française recevait des messages codés via la BBC pour coordonner les actions de sabotage contre les Allemands, l'un des plus célèbres extraits du poème de Verlaine, Chanson d'automne, Les sanglots sont longs, des violons de l'automne. Envoyé le 1er juin 1944, il annonçait aux résistants que l'invasion était imminente. Puis le 3 juin, la suite vers les blesse mon cœur d'une langueur monotone, signalait que l'attaque aurait lieu sous 48 heures. Ces messages déclenchèrent des actions cruciales, comme le sabotage des voies ferrées, ralentissant les forts allemands le jour J. Ce que vous êtes en train d'écouter à l'instant, c'est un message en morse que j'ai fait moi-même avec un site sur internet. J'ai pris quelques paroles d'une chanson que j'aimais bien et que j'ai retransmis en morse. Et là, vous êtes en train de l'écouter à l'instant. C'est Parole de Nino. C'est ma parole, c'est Un Poco. C'est Un Poco de Nino. Et j'aimais bien le passage de la chanson, donc je vous l'ai fait passer en morse. Donc voilà.
Samuel, Razvan, Ben, Lina, Adem, Nour, Sarah, Angèle, Héloïse et Reda. Et moi, bien sûr. Et la professeure, notre professeure de français, Madame Mandelbaum.
Et
Myriam. Et Myriam qui nous a aidés pour cette radio.
Merci à vous.
Merci à vous. C'est ciao.
Au revoir.